gatoyi gahungu kaniniya warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gahungu gatoyi gahungu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi.
Petit pays, c'est l'histoire de Gabriel, qui est un enfant d'une dizaine d'années, qu'on va suivre pendant 2-3 ans, à Bujumbura, la capitale du Burundi. Gabriel est métis, son père est français, sa mère est rwandaise. On va le découvrir dans son milieu, qui est une vie tout à fait paisible, dans une impasse de Bujumbura. Mais petit à petit, dans ce bonheur, dans cette insouciance, va apparaître quelques nuages dans ce ciel bleu, d'abord avec la séparation des parents, et ensuite en toile de fond, la situation politique du pays qui va se dégrader, avec d'abord un coup d'État, une violence qui va surgir dans la ville. Au-delà de ça, il y aura le génocide des Tutsis du Rwanda, que la mère de Gabriel va éprouver dans sa chair parce qu'elle y perdra les siens. Et Gabriel, tout au long du récit, va tenter de mettre à distance cette violence, d'abord en se réfugiant dans son impasse et en continuant de jouer comme l'enfant qu'il est. Mais quand sa propre bande de copains va petit à petit décider d'elle-même participer à cette violence, il va trouver un autre refuge qui est la lecture. et faire une rencontre décisive avec une vieille grecque qui s'appelle Madame Economopoulos. Et donc c'est l'histoire d'un paradis perdu.
Dans le roman, il y a deux univers radicalement opposés. Est-ce que c'est une volonté de votre part pour mettre en relief l'un par rapport à l'autre? L'insouciance, la beauté du Burundi par rapport à l'horreur de la guerre?
Oui, complètement. C'est une volonté de séparer les deux choses parce que on est dans une région du monde où, qui nous parvient, ici en tout cas en Occident, qui nous parvient quand il s'agit de violence, de guerre, de génocide. Et très rarement, on est au courant de la vie de tous les jours, du train-train, des émerveillements quotidiens. Donc il y avait cette volonté d'aussi parler de ça, de cette vie banale. Les trois quarts du roman quand même abordent cette vie de tous les jours, les 400 coups de Gabriel dans cette impasse, sa vie avec sa grand-mère, sa famille, etc. Mais bien sûr, on ne peut pas non plus ne pas parler de la violence qui est très présente dans ces régions.
En fait, dans le roman, ce génocide arrive un petit peu comme un coup de massue par rapport aux belles descriptions qu'on peut y voir.
Oui, bien sûr. C'est le glas de cette histoire. Il y a un avant et un après. Mais j'ai quand même essayé, tout au long du récit, de faire apparaître cette tension, ce drame annoncé de manière successive, un peu comme des tâches impressionnistes. Il y a d'abord la question de l'ethnie. Qui est l'autre? Qui est le Hutu? Qui est le Tutsi? Gabriel ressent que dans les gens qu'il fréquente, il y a des frontières invisibles. Donc c'est aussi le regard de l'enfant sur le monde des adultes que j'essaye de décrire. Et la violence n'arrive pas de manière subite. Elle arrive très successivement par vague, par touche.
Vous êtes né au Burundi, vous avez connu ce dont vous parlez dans le roman. En quoi Gabriel pourrait vous ressembler et en quoi est-ce qu'il est différent de vous?
Alors, Gabriel me ressemble parce qu'il a les mêmes origines que moi. C'était une petite technique d'écrivain que je ne suis pas encore, mais en tout cas à ce moment-là, de créateur, de lui donner des origines qui me ressemblent parce que voilà, il allait me servir pour aborder toutes les questions qui me touchent, que ce soit le métissage, l'exil, l'ethnisme, et puis aussi des questions liées... Enfin, quand je dis métissage, par exemple, j'aborde le rapport entre la mère et le père, donc le couple mixte. Et puis, la deuxième chose qu'on a en commun avec Gabriel, c'est qu'il traverse une situation politique que j'ai traversée. Mais la grande différence, c'est qu'à l'âge que j'avais, donc le même âge que Gabriel au même moment de l'histoire du Burundi, moi je n'ai pas du tout saisi ce qui se passait autour de moi, alors que Gabriel fait un effort de compréhension, il a une lucidité que moi je n'avais pas.
Dans le roman, il y a un personnage très touchant, c'est Yvonne, la maman. Comment vous pourriez la présenter?
Alors, Yvonne est la mère de Gabriel, est une réfugiée rwandaise qui a dû fuir les pogroms de Tutsi au Rwanda au début des années 60. Et donc, elle garde cette blessure de réfugiée. Elle est très marquée par cet exil. Et elle nourrit avec l'ensemble de sa famille le désir de rentrer un jour au Rwanda. Et donc elle a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour ce pays et pour sa famille qui vit là-bas. Donc quand le génocide surgit au Rwanda, éclate, elle décide de retourner pour voir qui a survécu, qui n'a pas survécu. Et ce qu'elle va y rencontrer va la marquer à vie. Et donc, pour moi, c'est un personnage qui est emblématique d'énormément de femmes que j'ai pu croiser après le génocide qui, en quelque sorte, sont toujours vivantes, mais qui ont perdu une partie de leur âme et qui sont un peu mortes en 94.
Cette image forte de la maman qui peut certainement arriver à toucher tous les lecteurs.
Oui, c'est une femme que j'ai ressentie comme une femme complexe. Elle a de l'amour pour sa famille, pour ses enfants aussi, mais elle n'arrive pas à surmonter ce qui a pu se passer. Et on voit, il y a des scènes où elle s'adresse à sa petite fille sans se rendre compte de la violence. Elle le fait avec douceur, mais elle transmet une violence incroyable. Elle n'a plus de filtre. Et ça peut se faire dans ce contexte-là de génocide, etc. Mais c'est des choses, effectivement, je pense, qui sont universelles. Il peut arriver qu'un parent s'adresse comme ça, sans filtre, à son enfant, sans se rendre compte de la portée de ses mots et du traumatisme que ces mots peuvent engendrer sur l'enfance. Donc elle a une portée universelle, finalement, je crois, cette mère, parce qu'il y a un mélange comme ça entre la douceur et en même temps la souffrance qui émerge d'elle-même.
Comme on le disait, vous êtes aussi auteur, compositeur, musicien. Il apparaît les mêmes personnages dans l'album Piti Piti. On retrouve des ambiances du roman, mais est-ce qu'il y avait des choses que vous ne pouviez pas faire passer par la musique et que vous aviez besoin de faire passer par l'écriture?
La musique m'a permis de me raconter, finalement. Pili Pili, c'est un album autobiographique à 100%. J'ai travaillé, tous les textes sont à la première personne du singulier. J'ai essayé de faire des chroniques autobiographiques, bon, avec toujours le souci que c'était pas de parler de mon nombril qui m'intéressait, mais c'était de parler d'une expérience qui...
Témoigner.
Voilà, de témoigner, une expérience qui pouvait aussi rentrer en résonance avec la sensibilité de quelqu'un d'autre. C'est toujours quand même la base de mon travail, c'est d'essayer de parvenir à ce moment de magie où ma solitude rentre en résonance avec la solitude de quelqu'un d'autre, pour qu'on soit moins seul ensemble. Il y a une forme de la chanson qui empêche peut-être de faire émerger, voilà, tout un monde, une psychologie de personnages, etc. Quelque chose de plus direct, je trouve, dans la chanson. Le roman m'a permis de prendre plus le temps, d'installer une atmosphère et de recréer un monde de A à Z.
Mais le monde du roman, on le ressent quand on écoute l'album.
Ben merci. Je pense qu'il y a un titre dans l'album, effectivement. Et ce titre est assez étrange pour moi, parce que j'avais terminé d'enregistrer mon album et il me manquait une autre ambiance. J'avais envie d'un moment de pause, parce que l'album, il y a de la batterie partout, etc. Et j'avais envie d'un moment de pause avec un piano et puis des mots, et que ça suffisait. Et je voulais parler de quand il se passait rien dans mon enfance. Donc ça s'appelle L'ennui des après-midi sans fin. Et j'ai enregistré ce titre vraiment au dernier moment. Je l'ai écrit très rapidement. Et puis il est sur l'album, sauf que je ne l'ai jamais chanté quasiment sur scène. Peut-être une ou deux fois, alors que j'ai fait, je sais pas, 200 concerts. Mais en même temps, c'est le seul titre que j'arrive à réécouter sans problème de cet album, parce que je déteste me relire ou me réécouter. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, ce titre-là, j'arrive à l'écouter, j'arrive à être ému même par ce que j'écris, parce que c'est comme si c'était quelque chose qui m'avait échappé. Et je pense que dans cette chanson, si elle a été écrite comme ça, à la hâte, comme une envie irrépressible, c'est qu'il devait y avoir le début de quelque chose. Et c'est comme une graine qui a donné ce roman, peut-être.
Dans le roman, il ressort que Gabriel ne veut pas faire de choix, de clan, ce qui est souvent à l'origine des conflits. D'ailleurs, à un moment, une jeune fille lui demande de quelle origine il est. Il dit qu'il est de race humaine. C'est beau.
Merci. Oui, bah, c'est beau, bien sûr. Ouais, je crois que c'est le seul combat que nous autres humains, on devrait avoir. C'est-à-dire de voir en l'autre un humain comme nous et puis d'effacer les frontières, qu'elles soient visibles ou invisibles. Oui, c'est de ressentir l'autre dans son humanité et d'arrêter de se créer cet apparat, toutes ces distances qu'on met les uns envers les autres.
D'ailleurs, à un moment dans le roman, Gabriel regarde la télé, il voit des enfants réfugiés. Ça peut faire écho à ce qu'on voit en Syrie. Est-ce que vous pensez que votre roman pourrait avoir une portée universelle? Et est-ce que vous aimeriez que ça puisse éveiller les consciences pour ne pas reproduire ces horreurs?
Ça, qu'il ait une portée universelle, moi je ne peux pas être juge de ça. J'espère, en tout cas moi c'est le travail que j'essaye de faire, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Par exemple, quand j'écris un texte, je me pose toujours la question de comment il peut être reçu ici, donc dans mon pays en France, mais comment il peut être aussi reçu dans mon pays, le Burundi et le Rwanda. Donc déjà, en ça, on sait que les sensibilités sont différentes, on sait que les cadres, la culture est différente, mais je pense qu'il y a toujours des liens, finalement, les humains partout sur Terre, on a quand même les mêmes préoccupations. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête quand j'écris, c'est certain. Après, d'y arriver ou pas, ça je peux pas le dire.
Bon, en fait, je pense ça.
Bon, ben merci beaucoup. Merci.
Est-ce que ça peut éveiller les consciences? Ah. Est-ce que le but, même si c'est un peu utopique, est-ce que le but, c'est qu'on prenne conscience du danger de faire des clans et de créer de la haine?
Oui, bien sûr, après ça, on sait que l'histoire est un éternel recommencement, malheureusement. Mais ce que j'ai essayé, je pense, de faire avec ce roman aussi, c'est de donner un prénom à quelqu'un qui, ou à des situations qui sont souvent vues comme des drames ou des statistiques ou des chiffres. Quand on parle du Rwanda, on dit 1 million de morts. Quand on parle du Burundi, on dit 300 000 morts. Quand on parle des migrants, on dit 9 000 migrants. Enfin, on dit, quand on parle de gens qui quittent la guerre, on dit des migrants qui arrivent, 9 000. On parle de Calais. On a l'impression qu'on parle d'ombre. Et donc parler de l'histoire d'un petit garçon qui vit heureux dans sa ville, dans son quartier, et qui est obligé de fuir aussi, parce qu'il y a une histoire d'exil, hein. Gabriel finalement termine en France. C'est aussi redonner un prénom à une histoire, et donc d'embarquer le lecteur et de lui montrer que tout ça peut le concerner.
Et alors, ce soir, vous allez faire une lecture musicale ou correspondance. Comment vous allez aborder cette lecture? Comment avez-vous sélectionné les textes, les musiques?
C'est un pot pourri de mes textes. Je me laisse encore le choix, j'ai pas encore sélectionné. J'aime bien attendre le dernier moment, voir l'ambiance de la salle. Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il n'y a pas d'écoute? Est-ce qu'il y a des bonnes ondes? Tout ça. Donc je verrai au moment venu. J'ai une vague idée peut-être de ce que je veux faire, mais j'attends quand même de ressentir. C'est pas tant freestyle que ça, parce que finalement, les textes, j'ai des textes avec qui je vis, j'ai des... tout ça, enfin, c'est en moi, mais il y a des moments de partage comme ça où c'est comme si on a rendez-vous avec un ami et qu'on est content parce qu'on se dit on ne sait pas où va aller la discussion et on laissera et les silences et la discussion. Si on va voir un ami en sachant exactement ce qu'on va lui dire, je ne sais pas, ça, on perd un peu d'humanité, on perd un peu de choses. Enfin, par rapport à ce que j'aborde là comme thème, j'ai pas envie de faire un spectacle chronométré.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois, et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Mur de sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Elle est île, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili pili, rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins, laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre.
Pili 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 p